Hello, hello, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne savent pas, toutes les semaines je vais à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des entrepreneurs, des pâtissiers, des cuisiniers, des musiciens, j'en passe. L'objectif de toute cette histoire, c'est tout simplement de vous aider, de m'aider aussi à ce qu'on devienne tous ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Anne-Hélène Claire. Alors c'est un épisode un peu particulier parce que Anne-Hélène est neuropsychologue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire concrètement qu'elle est psychologue de formation, mais aussi docteur en neurosciences, en l'occurrence à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Vous pouvez imaginer que notre conversation est évidemment passionnante, d'autant plus que Anne-Hélène est spécialiste, entre autres, des TOC. Vous savez, ces fameux troubles obsessionnels compulsifs, ce dont on a donc beaucoup parlé dans le courant de cet épisode, pour vraiment faire, si vous voulez, une sorte de masterclass, parce que finalement, ce que nous explique Anne-Hélène, c'est que le TOC est quelque chose de beaucoup plus commun qu'on croit, que beaucoup plus de personnes sont touchées par cette affection qui les fait souffrir et donc on peut les aider à se soigner et à prendre conscience justement de ce souci. C'est pour ça qu'on a abordé le sujet de qu'est-ce que c'est qu'un TOC, comment est-ce qu'on le distingue d'une habitude bien ancrée, comment est-ce qu'il se développe, comment est-ce que ça naît, est-ce qu'il y a un terrain génétique finalement, est-ce qu'il y a des personnes plus sujettes les unes que les autres, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui arrive, on va dire, suite à un traumatisme, quel qu'il soit. Est-ce qu'on peut se guérir également d'un TOC? C'est évidemment une question à laquelle on a voulu répondre ensemble. Bref, un épisode vraiment très intéressant sur ce thème, et je vous invite d'ailleurs à consulter le travail d'Anne-Hélène dans ce domaine, et puis surtout, bien sûr, si vous sentez que vous êtes potentiellement concerné, à aller voir l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, qui s'appelle l'AFTOC, A-F-T-O-C, que je vous mets également dans les liens de cet épisode, donc aftoc.org, qui pourra, je suis sûre, vous aider. Mais on n'a pas que parlé que de TOC dans cette histoire, on a également parlé de son nouveau livre qui s'appelle « Devenez votre propre psy » qu'elle a coécrit avec Vincent Tribou et qui est également très intéressant puisque finalement il va plutôt traiter de tous les petits ennuis, de tous les petits problèmes qu'on va avoir au quotidien dans sa tête et comment réussir justement à s'en sortir le plus facilement possible. Bref, un épisode je crois très intéressant, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cette conversation avec Anne-Hélène, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anne-Hélène Claire. Bonjour Anne-Hélène.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir sur le podcast.
Eh ben, merci à vous de m'avoir invitée.
C'est un grand plaisir. J'ai plein de questions. Regardez cette feuille interminable que j'ai devant moi. Alors, je vous propose qu'on commence par parler de votre parcours et ensuite j'aimerais faire une petite masterclass à la fois sur votre dernier livre et puis sur les TOC, qui est un sujet que j'ai jamais abordé sur le podcast et que, évidemment, je sais que vous allez nous rendre passionnant. Donc peut-être pour commencer, ma première question, c'est simple, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vous venez et puis comment vous êtes tombée dans le monde de la psychologie, psychiatrie et plus spécifiquement, on va dire, des troubles du comportement?
Alors, j'ai envie de vous dire par hasard,
ouais.
Mais quelquefois le hasard fait bien les choses. J'ai commencé effectivement des études de psychologie. Vraiment par hasard, je vais vous dire, c'est un peu honteux, hein, mais c'est pas grave, on a le droit de dire des choses honteuses.
On a le droit de dire des choses honteuses, ça, c'est entre nous.
Il faut s'affirmer. Moi, j'ai fait ça parce que ma meilleure amie partait en psycho.
Et vous vouliez être avec elle.
Voilà, et je me suis dit, chouette, comme ça, on va être coloc. Et puis, j'hésitais entre faire de l'anglais, parce que j'aimais beaucoup l'anglais aussi à l'époque. Et puis, voilà, je savais pas trop. Et en fait, on m'a dit, oui, mais viens en psycho, il y a plein d'anglais, tu verras. J'aimais bien les maths aussi, j'aimais plein de choses. Et finalement, en psycho, je me suis vite aperçue que ce qui m'intéressait dans les matières qu'on nous proposait, c'était plutôt les matières scientifiques, donc les statistiques, à l'inverse de tous mes collègues, qui détestaient ça.
Ouais. Mais vous aviez fait des... Alors, le bac et tout, plutôt ouais. S, enfin, pour
plutôt
les personnes...
littéraire.
D'accord. Donc, en plus, pas de prédestiné à faire
non.
Des maths, quoi.
Bah non. Et j'ai beaucoup aimé les statistiques. Je trouvais que c'était extrêmement logique pour moi. Ça, voilà, c'était très fluide. Et les neurosciences. Et là, je me suis dit, c'est passionnant ce qui se passe dans le cerveau. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais peut-être rester en psycho.
Finalement, voilà. Le hasard fait bien les choses.
Finalement. Et puis, donc j'ai commencé mes études de psycho à Aix-en-Provence. Et je suis ensuite partie à Paris parce que j'avais envie de m'intéresser à la recherche. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de professeurs qui écrivaient des livres, qui enseignaient à Paris. Et donc, je me suis dit, il faut que je me rapproche de ces gens-là. Donc je suis arrivée ensuite à Paris en psycho et là j'ai continué les neurosciences et je me suis de plus en plus radicalisée, on peut dire ça comme ça, où je suis carrément, je suis arrivée dans un master 2 de neurosciences, toujours un peu en psycho mais quand même de neurosciences. Et après j'ai eu la chance, parce que vraiment c'était une grande chance, d'arriver dans l'équipe du professeur Mallet et professeur Agide à l'époque, qui était un grand neurologue et un grand psychiatre. Qui m'ont accueilli en stage à la Pitié Salpêtrière. Et là, je suis tombée dans un super service, une super équipe qui mêlait de la clinique, donc vraiment où on voyait les patients, où on apprenait à être au contact des patients, et aussi de la recherche. C'était beaucoup de chercheurs, des médecins qui avaient une super renommée internationale. Enfin voilà, vraiment. Et il se trouve que ils étaient en train de mettre en place un protocole sur les TOC.
D'accord.
Ils m'ont dit, donc, ça encore t'intéresse. Un hasard. Voilà, encore un hasard. Ils m'ont dit, ça t'intéresse? Je suis, bah ouais.
Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi pas?
On y va. J'étais très intéressée par ces liens entre le cerveau et le comportement. Mm. Et donc là, justement, c'était notamment des études où on allait essayer de mettre en évidence ce qui se passait dans notre cerveau quand on avait des TOC. Et donc, j'y suis allée. Et en fait, je me suis passionnée pour ça. Tellement passionnée que j'ai laissé de côté la psychologie et j'ai fait un doctorat de neurosciences où vraiment là on était plutôt dans
un petit peu dans le dur,
voilà,
là.
Un petit peu plus dur, un peu neuro, et tout en gardant quand même mon activité de psychologue clinicienne à côté. Donc je voyais aussi des patients, j'ai commencé à me former à la thérapie cognitive et comportementale, toujours en m'orientant un petit peu plus vers les gens qui ont des TOC. Et puis, donc là, c'est, oui, on peut durer longtemps sur mon parcours.
Non, mais c'est hyper intéressant.
Vous aurez le droit de couper.
Je ne coupe jamais rien, vous le saurez.
Et donc, à la suite de ça, donc j'ai obtenu ma thèse de neurosciences. J'étais très contente. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire de ta vie? Est-ce que j'aimais beaucoup l'enseignement, j'aime beaucoup la recherche, j'aime beaucoup la clinique, donc je me destinais plutôt vers une carrière universitaire.
Ouais.
Il manquait un truc. Et là, j'ai commencé à regarder, à fouiller un petit peu, et je suis tombée sur une passerelle entre un doctorat scientifique et les études de médecine. Et donc, je suis arrivée en médecine. Donc, j'ai repris des études de médecine en troisième année. Il y a un petit concours à passer. À passer pour arriver en troisième année. Et ensuite, j'ai continué mes études, j'allais dire presque comme tout le monde.
Ouais.
Puisqu'à côté de ça, je continue à faire un peu de recherche. Je continue à voir des patients qui avaient des TOC. J'ai continué à écrire des livres. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis interne en médecine, en psychiatrie. C'est pas original, mais c'est cohérent avec le parcours.
Et qui vous permet de continuer à avoir une expérience clinique, justement.
Exactement. Mmh. Et puis, à apprendre aussi, c'est toujours pareil, c'est à moduler le comportement, mais d'une façon encore différente, avec des médicaments.
Mmh. C'est passionnant. J'aimerais parler du livre, mais avant ça, si ça vous va, Anne-Hélène, je me suis dit que peut-être que beaucoup de gens sont dans mon cas, beaucoup de gens qui nous écoutent et ne savent pas vraiment ce que c'est que les TOC, d'où ça vient, pourquoi, qui peut être soumis à des TOC, comment on s'en sort aussi, est-ce que c'est vraiment si grave que ça ou est-ce qu'on peut vivre heureux avec des TOC. Bref, j'ai 1000 questions pour vous. Je pense que c'est un sujet qui est souvent pas énormément abordé, en tout cas pas beaucoup dans les podcasts. Et du coup, je voulais faire une petite masterclass, si vous l'acceptez, sur le thème des TOC, avant qu'on parle de votre dernier livre, donc « Devenez votre propre psy » avec Vincent Tribou. D'abord, est-ce que vous pourriez commencer par définir c'est quoi un TOC?
Ah, ça c'est important.
Bah oui.
Alors, on entend parfois, on a tous des TOC. C'est pas vrai. Dans TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif.
Et, bon, il y a quand même obsessionnel et compulsif
voilà,
dedans. Donc,
mais le T de trouble, il est important. Parce que ça veut dire que ça me gêne. Ça m'handicape au quotidien. C'est un souci pour moi. Et dans obsessionnel et compulsif, on a donc des obsessions qui sont des pensées qui arrivent sans cesse dans notre tête, qui sont récurrentes, toujours sur le même sujet, souvent, et qui vont nous angoisser. Et le côté compulsif, c'est que on a des comportements qu'on va répéter aussi, plusieurs fois, souvent, pour essayer de diminuer l'angoisse. Mais ça marche sur le moment, mais à long terme, ça marche pas. Des exemples classiques, ça peut être je vais vérifier plein de fois ma porte parce que je me demande si je l'ai mal fermée, ou alors je vais me laver les mains de façon excessive. Ça, ce sont les thématiques les plus fréquentes. Après, on peut avoir des trucs un petit peu plus, j'allais dire, bizarres, un peu plus comme pas mal d'obsessions de nature sexuelle aussi. Est-ce que il se pourrait que là, en arrivant là dans votre studio, j'ai touché un enfant sans le vouloir et sans le faire exprès dans la rue ? Qui me dit que je l'ai pas fait ? J'avais ma main là à hauteur de cuisse, j'aurais très bien pu le toucher.
D'accord. Ouais, c'est, et donc c'est... ça peut être un toc d'avoir cette pensée.
Exactement.
Finalement.
Et puis là, je vais me refaire le scénario dans ma tête. Donc, je vais prendre un petit moment en arrivant et puis je vais me dire,
ça va
qu'est-ce que j'ai fait ? Et je vais faire une vérification mentale parce
donc
que ça m'angoisse
une,
énormément.
Il y a une histoire d'angoisse quand même. C'est-à-dire qu'on a tous des pensées, mais là, la pensée, elle est très récurrente et
exactement.
Elle est angoissante.
Oui.
Et souvent, elle génère un comportement, si j'ai bien compris.
Exactement. Et ça me gêne dans mon quotidien. C'est-à-dire, ça fait que j'arrive en retard au boulot, ça fait je vais mettre beaucoup plus de temps que les autres à répondre aux mails parce que je les vérifie plein de fois avant de les envoyer. Ça fait que, ben oui, je peux paraître un peu distrait parfois. Si là, je suis en train en même temps de me remémorer ce qui s'est passé dans la rue, c'est normal que je fasse des réponses un peu à côté.
J'espère pas.
Ah ben non.
Anne-Hélène, c'est intéressant parce que justement, une question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait la différence entre une habitude très ancrée, un petit, un petit délire, on va dire, ou une petite anxiété et un vrai toc
Alors, la première chose, c'est la gêne. Si vous avez des habitudes, si vous mangez tous les jours la même chose au petit déjeuner et que vous aimez bien ça, ou si vous aimez dormir d'un côté du lit et pas de l'autre, si jamais je vous dis, allez, aujourd'hui, pour vous débarrasser de quelque chose qui vous gêne, vous devez dormir de l'autre côté du lit. Vous allez me dire, bon, ok, ça m'embête, mais ok, ça passe, je le fais. Mais ça m'angoisse pas. Alors que quand on a un TOC, si jamais je vous dis, non, vous avez pas le droit de vous laver les mains, là, c'est la panique.
Oui.
Donc là, ça va pas. Et puis l'autre chose, c'est que souvent, les habitudes, elles sont faites plutôt pour nous rendre service. Alors que là, le TOC, il nous rend pas du tout service. Il nous empoisonne le quotidien.
C'est marrant parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'interviewer sur le podcast il y a quelques temps maintenant. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde d'écouter cet épisode. Eliane Errant, qui est spécialiste d'addictologie. Et en fait, dans tout ce que vous me dites, je trouve qu'il y a un schéma assez commun finalement dans ce que vous me dites entre les TOC et entre l'addiction. Alors là, je parle à la neuroscientifique. Est-ce que chimiquement ou au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, moi-même étant littéraire, je vous avoue que je n'ai pas les bons mots, mais est-ce qu'il y a des choses qui se passent en commun dans ces deux secteurs ?
Oui, tout à fait. Alors, on sait que dans les TOC, il y a tout un réseau cérébral qui est impliqué. Et notamment, dans ce réseau-là, on a une partie d'un noyau, d'un ensemble de noyaux qui sont impliqués dans tout ce qui est récompense. Le fait de rechercher la récompense, d'être sensible à cette récompense. Et autant la compulsion, le fait de vérifier est vécu comme une récompense parce que ça soulage mon angoisse, donc c'est bien. Autant on peut se dire, quand je prends ma dose, quand je prends mon petit rail de coke ou mon je sais pas quoi, c'est aussi une récompense.
Ah ouais, complètement.
Voilà.
Donc, le TOC est, enfin le comportement du TOC, il y a de l'anxiété et donc on se récompense ou on essaye de...
Ça a valeur de récompense. D'accord. La compulsion a valeur de récompense. Et on retrouve, quand on fait des études en imagerie cérébrale, on retrouve des réseaux neuronaux communs, effectivement, avec l'addiction, avec d'autres troubles aussi, d'autres troubles mentaux, mais notamment avec l'addiction.
D'accord, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, un peu de la même manière que j'avais posé cette question à Eliane, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédestinées, d'une certaine manière, à avoir des TOC ? Finalement, d'où vient le TOC ? C'est-à-dire que est-ce que c'est uniquement parce que j'ai eu un traumatisme un moment dans ma vie et donc je me bac avec un TOC ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de manière hyper latente dans le temps ? Comment est-ce que ça se développe finalement ?
Alors, je serais tentée de vous faire la même réponse qu'à mes patients et de vous dire, on ne sait pas.
Ah ouais. On
mais
sait pas.
On sait un peu. On pourrait dire ça. On sait un peu, disons qu'on a des hypothèses. On sait, comme la majeure partie des problèmes psychiatriques, que ça vient d'un ensemble de facteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui peut expliquer que oui, vous allez avoir un TOC ou pas. Et parmi ces facteurs, il y a des facteurs génétiques. C'est-à-dire que si vos parents ont un TOC, vous avez plus de risques que le voisin d'avoir un TOC, mais ça ne suffit pas. Et pareil, on a une partie de l'éducation qui rentre en jeu aussi. Une éducation peut-être rigide, avec certains principes qui ont été valorisés, d'autres pas, ça peut aussi faire partie de cette petite potion magique pour développer les TOC. Et puis, on a aussi la façon dont notre cerveau va se développer, comment nos neuromédiateurs vont évoluer, comment... Et donc, on retombe finalement dans un modèle qu'on appelle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'il y a une partie de génétique, une partie de biologique, une partie de société, une partie de personnalité, un peu tout. Et on ne sait pas comment, mais à certains moments, ça fait que certains développent un TOC et pas d'autres. Après, ce qu'on observe, nous, en clinique, en tant que professionnels de la santé, c'est que c'est souvent des personnes qui sont quand même anxieuses.
Faut avoir un petit terrain psychologique.
Voilà, qui ont un terrain anxieux. Moi, j'ai des patients qui me disent c'est le terreau de mes TOC. C'est un peu ça, hein, c'est, c'est là-dessus que ça va pousser. Donc, on est un peu anxieux. On a tendance à se faire du souci pour des petites choses du quotidien. Parfois, il y a un événement en particulier qui peut être déclencheur d'un TOC, un événement stressant, plus important. Là, on est en pleine crise sanitaire, même si on commence à être habitué un peu, malheureusement. Mais,
une crise qui dure 2 ans.
Ouais, bah oui, une grosse crise. Ou une longue crise, plutôt.
Une longue crise, ouais.
Voilà. Ça a été dur pour beaucoup de gens. Et on a vu l'apparition de TOC comme d'autres maladies psychiatriques. Hein.
Ah oui, il y a eu là une...
Bien sûr, ouais. De plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, alors soit pour des TOC qui sont révélés dans ces circonstances-là, qui sont pas forcément en lien avec le Covid. C'est-à-dire, c'est pas j'ai peur d'attraper le Covid, c'est j'ai développé un TOC sur la saleté ou sur la vérification, comme on disait. On a aussi pas mal de personnes qui viennent nous voir. Moi, j'en ai quelques-unes là à l'hôpital en ce moment sur des burn-out, hein, des épuisements professionnels. Qui sont épuisés parce que le télétravail, on a du mal à définir les horaires, à limiter ses horaires. Peut-être qu'on en demande beaucoup. Il y a aussi le stress d'être viré.
Et donc, ces personnes-là sont plus sujettes ensuite à développer des TOC justement parce qu'elles sont psychologiquement instables à ce moment-là?
Alors, j'allais dire oui, du moment qu'on a une fragilité psychique, on va être plus sensible et donc on aura plus de risques de développer une autre maladie psychique, quelle qu'elle soit.
Est-ce qu'au moment où on n'est pas bien, mettons qu'il y ait effectivement un événement déclencheur, etc., j'arrive pas trop à me dire à quoi ressemblent les premiers jours d'un moment où on développe un TOC. Je sais pas si je suis claire.
Ouais, parce
que je veux dire, c'est est-ce qu'on passe tout d'un coup de je n'ai pas de TOC à j'ai un TOC et
ça.
Je suis complètement compulsif, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait de manière assez graduelle?
Encore une fois, il y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. C'est pas tout ou rien. La plupart du temps, on peut dire que le TOC évolue de façon progressive, insidieuse. Ça commence souvent dans l'enfance, par des petits rituels. Ça peut être, je vérifie mon cartable avant de partir à l'école. Je demande plusieurs fois à maman si ça va, j'ai pas fait quelque chose de mal. Mais bon, ça gêne pas trop. Donc là, on n'est pas dans un TOC, on est plutôt dans quelques symptômes, mais qui sont gérables. Et puis, petit à petit, comme ça, le TOC, si on le laisse évoluer, il a tendance à augmenter et à se chroniciser, à devenir de plus en plus important. Et jusqu'à devenir un réel handicap. Donc souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas vraiment arriver.
Oui, une fois de plus, comme l'addiction qui n'arrive pas du jour au lendemain. Quoi. C'est une succession de petites actions.
Exactement. Et puis, parfois, on a certains patients qui sont capables de vous dire « Moi, j'ai eu le TOC ce jour-là. »
C'est vrai,
c'est fou. Il s'est passé ça, et là, j'ai eu un TOC.
Vous auriez un exemple ?
J'en ai un trop bien. Alors,
allez-y.
Je vais partager. J'ai une patiente que...
Pas trop bien. Peut-être pas pour cette personne, mais...
J'ai une patiente qui m'a dit un jour, ça m'a marqué. Elle venait d'avoir un petit garçon et quand elle a changé son petit garçon, il lui a fait pipi dessus. Bon,
okay,
un peu pipi dessus. Je pense que tous ceux qui ont changé un petit garçon, il y en a peut-être beaucoup dans leur vie, savent que quelque part, on est obligé de passer par là et que c'est pas la fin du monde. C'est désagréable, mais c'est pas traumatique.
Non.
Et pour elle, ça a été un réel traumatisme. Et à ce moment-là, elle s'est dit. Mon Dieu, j'ai de l'urine sur moi, c'est horrible, je suis contaminée. Et à partir de là, elle a développé un TOC faramineux sur la peur d'être contaminée par l'urine.
Par l'urine spécifiquement?
Ouais, par l'urine.
Donc en fait, son problème ensuite, c'était vis-à-vis de son fils?
Non, c'était partout, parce que quand on réfléchit, après ça peut généraliser, c'est-à-dire que l'urine, on peut l'avoir partout. Là, je viens de dehors, si ça se trouve, j'ai marché sur le trottoir et quelqu'un avait fait pipi sur ce bout de trottoir, et puis... du coup, je l'ai ramené ici, et puis j'ai peut-être touché quelque chose que quelqu'un d'autre a touché sans s'être lavé les mains après être allé aux toilettes.
Et donc, elle a eu cette telle anxiété qu'elle a développé des comportements pour
un
compenser,
TOC sévère,
c'est
ouais.
ça?
Avec vraiment des lavages excessifs, avec des rituels qu'elle imposait à sa famille aussi, parce que les TOC touchent la personne, mais elles touchent aussi beaucoup l'entourage, et on en parle un petit peu moins. Et là, elle imposait à son mari et à ses enfants des scènes où elle les faisait déshabiller, puis se rhabiller, puis se laver. Voilà.
Vous me faites une belle transition, Anne-Hélène, parce que je voulais justement parler un peu de la famille, des amis. Moi, j'ai été en prépa et il se trouve qu'en prépa, j'avais un de mes collègues de prépa qui avait un TOC. Vous savez, ces TOC oraux. Il n'arrivait pas à se retenir. Et donc, en fait, c'est un peu terrible d'ailleurs parce qu'il y avait, je pense, pas mal de on se moquait un peu de lui. Enfin, voilà, c'était pas facile, je pense, pour lui. Et évidemment, plus les gens se moquaient de lui, bah, plus il était anxieux et donc plus son TOC était sévère. Et donc, c'était assez terrible comme situation. Et je me rappelle de ça parce qu'en fait, je me suis dit, cette personne-là devait souffrir, mais son entourage, alors la classe en l'occurrence, mais aussi évidemment sa famille devait beaucoup souffrir. Et donc, je voulais savoir quelles sont les choses en tant que famille, en tant qu'ami, en tant que conjoint, en tant qu'entourage, qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on réagit face à quelqu'un qui est bloqué dans une situation de TOC?
Alors, je ne sais pas si c'est d'un TOC ou d'un TIC que vous parlez. Alors,
expliquez-nous. Voilà. Je ne sais pas.
Alors, c'est vrai que les tics, ce sont ce qu'on appelle des comportements semi-volontaires, mais qui sont pas sous-tendus par une anxiété. Et souvent, on voit ça, des petits tics oraux, genre des petits cris, des petits grognements, des raclements de gorge. Voilà, on peut voir ça. Les tics moteurs qu'on voit, bah, c'est par exemple les clignements d'yeux, les petits mouvements d'épaule comme ça.
Et donc ça n'est pas un TOC.
Ça, c'est des tics.
Et ça veut dire quoi, tic?
Alors, rien. Enfin, c'est pas...
Il y a le TOC et le tic, quoi.
Voilà, non, le TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Le tic, c'est un mot en soi, c'est un nom commun.
Ok, d'accord. Bah, écoutez, vous m'apprenez quelque chose.
Et c'est vrai que quand on regroupe ces tics avec des tics moteurs et des tics vocaux, on appelle ça la maladie Gilles de la Tourette, souvent. On en entend un petit peu parler. C'est ce qui, à certains moments aussi, ils peuvent dire des gros mots.
Oui.
Voilà.
Bah, c'était son cas.
Voilà, donc ça c'était certainement...
C'était toujours un petit peu délicat quand le prof arrivait et là, bam.
Et c'est vrai que c'est délicat. Alors ça, pour le coup, et ça part, on sent qu'il y a vraiment une impulsion, qu'il y a vraiment, ça part tout seul. C'est comme si si on toussait ou si... Donc ça, c'est des tics. Après, ça n'empêche que vous avez remarqué des choses qui étaient très justes, c'est-à-dire que souvent ces tics, la fréquence et l'intensité sont augmentées par le stress. Ça peut être diminué quand on a une grosse focalisation de l'attention. Il y a par exemple des acteurs assez connus qui ont des tics.
Ah bon?
Je vais pas dire de bêtises parce que si je dis une bêtise, on me dit non, c'est pas moi.
Bah alors ne dites pas de nom, mais voilà, d'accord, il y a des gens et donc qui arrivent à se quand ils
moi,
sont.
Moi j'avais justement un patient qui a la maladie Gilles de la Tourette que j'étais allée voir à un spectacle de théâtre parce qu'il faisait du théâtre et il avait aucun tic sur scène.
Incroyable.
Impressionnant. Donc, le fait de se concentrer comme ça permet de réduire les tics.
Oui, c'est quand on est concentré sur soi qu'on a son tic.
On est dans sa bulle. Et c'est vrai que, voilà, il y a plein de choses. Parfois, boire de l'alcool aussi, même s'il faut en abuser, ça diminue un petit peu les tics. Donc, il y en a qui développent après des addictions en disant que c'est un moyen comme un autre de plus avoir ces tics. Mais effectivement, il y a un handicap social qui est majeur. Parfois aussi, et ça c'est commun avec le TOC, des relations familiales qui sont compliquées.
Bah ouais.
Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que déjà, parfois, la famille comprend pas. Alors l'entourage encore moins.
À l'impression qu'en fait, on peut ne pas le faire.
Exactement.
Moi, c'est le sentiment que j'ai eu pour
avoir
rencontré
des gens. C'est
ça.
Moi, j'entends souvent aussi une question de volonté.
Ouais.
Bah non, en fait, c'est comme si vous disiez, je sais pas, un dépressif, bah allez, sourire à la vie. Regarde, c'est magnifique. Ben non, ça marche pas. Donc c'est un peu ça. Et donc il y a déjà cette compréhension qui est parfois compliquée. Et puis l'autre chose, c'est, je pense que ça rajoute au fait que les proches ont du mal à comprendre, c'est que souvent les tics comme les tocs sont plus importants à l'extérieur, à la maison qu'à l'extérieur.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des tocs ou des tics à la maison, mais pas du tout au travail. Et ouais.
Parce qu'on se sent plus en confiance chez
soi. Parce qu'on inhibe, on fait énormément d'efforts au travail, alors qu'à la maison, effectivement, on se lâche, on est plus en confiance, on se détend. Et ça, c'est interprété alors par les parents ou par les proches, les conjoints, en mode tu le fais exprès, quoi.
Ouais.
Non, on le fait pas exprès. C'est juste qu'on se sent plus à l'aise. Donc au contraire, c'est une marque de détente, de confiance aussi envers l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas honte de faire mes tocs ou mes tics devant toi. Mmh. Enfin, ça, c'est important aussi.
Et donc, finalement, vous qui avez vécu ça, j'imagine, avec beaucoup de patients, quand on a peut-être le voilà, on se dit bah peut-être que mon conjoint, mon fils, ma fille, peu importe, une personne de mon entourage, un ami, on commence à avoir un doute sur le fait qu'elle a potentiellement un TOC. Mmh. Que cette personne n'en a peut-être pas forcément conscience, ou en tout cas qu'elle le refuse un petit peu. Selon vous, quelles sont les choses en fait que cette amie, ce membre de la famille devrait faire pour aider la personne potentiellement sujette à un TOC? Ouais.
Alors, je dirais que ça dépend du degré de proximité qu'on a. C'est vrai que si c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille ou avec qui vous êtes quand même assez proche, vous pouvez peut-être vous permettre de lui en parler et lui dire, bah voilà, j'ai remarqué qu'il y avait des choses, des comportements ou des fois des attitudes que tu avais qui ont l'air de te faire souffrir. Je pense qu'il faut rester sur la souffrance et dire, ça a l'air douloureux ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu voudrais en parler à quelqu'un et voilà, inciter plutôt à consulter. Moi, je dis souvent, enfin, les associations de patients sont super pour ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un espèce de lien entre le professionnel de santé et l'ami, quoi. Enfin, donc c'est eux qui vont déjà entendre ce que votre plainte, et puis peut-être vous orienter, déculpabiliser, vous dire bah c'est pas grave d'aller voir un psy, ça veut pas dire que je suis fou, parce qu'il y a ce côté-là aussi,
bah ouais,
qui est de moins en moins. Mais bon, bah, tu vas voir le psy, ça veut dire que t'es taré.
Non, mais il doit y avoir une honte quand même, d'une certaine manière, parce que c'est pas quelque chose de commun. Enfin,
oui.
Je connais pas les statistiques, mais les
TOC, c'est assez fréquent. C'est 1 à 3% de la population.
Ah ouais.
Donc je sais pas, quand on a plein d'amis Facebook ou LinkedIn.
Il y en a forcément un.
Et voilà, il y en a un ou deux qui se baladent.
Donc ça veut dire que sur les personnes qui nous écoutent, il y en a forcément quelques-uns.
Oui. Et moi, je leur dirais de pas avoir honte et d'aller en parler. Parce qu'ils sont pas tout seuls, même si leur thématique, la thématique de leur TOC, on a parlé des TOC sexuels tout à l'heure et j'ai fait un peu exprès de donner une thématique un peu scandaleuse, très très honteuse, justement pour déculpabiliser et de dire mais ça reste une maladie en fait. Peu importe à quoi on pense, peu importe la tonalité de nos pensées et le contenu de ces pensées, le fait est qu'elles sont intrusives, on les contrôle pas, on aimerait bien s'en débarrasser mais on n'y arrive pas, c'est pas votre faute.
Je rentre dans un sujet du coup peut-être un petit peu complexe, mais l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, il était effectivement assez fort. Mmh. Et en fait, du coup, ça me fait penser à une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que les pédophiles, pour ne pas les nommer, sont en fait des personnes qui ont des TOC d'une certaine manière assez souvent, ou ça n'a rien à voir?
Ça n'a rien à voir.
D'accord.
Mais c'est intéressant de poser ça, parce que c'est la question que se posent beaucoup de patients.
Ouais.
Genre, je suis peut-être un pédophile en devenir, par exemple. Et c'est là où il faut bien faire la différence entre avoir envie d'eux et avoir peur d'eux. Moi, j'ai pas dit j'avais envie de
de
toucher des enfants dans la rue et donc je me suis positionnée devant chez vous en attendant qu'il y ait des enfants qui passent.
Ouf.
Je vous ai pas dit ça.
Non.
Je vous ai dit je suis angoissée, je me suis sentie pas bien parce que je me suis dit peut-être que. Et là, on est sur des hypothèses, sur de la peur, sur de l'anxiété.
D'accord.
Peut-être que j'ai fait ça et ce serait grave, ce serait une catastrophe. Et donc, j'ai besoin de me rassurer pour ça et donc de me remémorer.
Voilà. D'accord, très clair.
Donc ça, c'est bien différent. Donc, bien sûr, on n'est pas un pédophile en devenir, on n'est pas fou non plus, parce qu'on a cette impression parfois de perte de contrôle des pensées. Non, on n'est pas fou, c'est une maladie.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement, quand on a cette maladie? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que, potentiellement, soit on a le TOC, soit on sent qu'on a le potentiel un jour de le développer parce que on a des réflexes d'anxiété qui font qu'on a des comportements un peu compulsifs?
Ouais. Alors, je dirais que la première chose, c'est d'en parler. Ça, c'est hyper important. Après, en parler à qui? C'est la question. Alors, on peut conseiller dans un premier temps d'aller se renseigner auprès de l'AFTOC, qui est l'Association française des personnes souffrant de TOC. Eux, ils ont l'avantage d'avoir vraiment un réseau assez important. Ils connaissent les professionnels dans leur région. Parce que, c'est vrai qu'à Paris, on a quand même des professionnels qui s'occupent de ça. Mais on peut avoir des régions où c'est plus compliqué. Donc, eux, ils savent. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on peut aussi tout simplement en parler à son médecin traitant.
Mmh.
On l'oublie parfois dans la chaîne. C'est-à-dire que lui, il est formé. Hein, c'est un médecin comme les autres. Il sait très bien ce que c'est que les TOC et il est capable d'orienter peut-être vers un psychologue ou un psychiatre en fonction de la sévérité de ce qu'il voit. C'est-à-dire que si vous me dites je viens vous voir docteur parce que ça fait 20 ans que j'ai des TOC, et on en voit, hein, ça fait 20 ans que j'ai ça et je me demande si c'est pas des TOC, J'en ai là. Et en plus, je commence à avoir le moral qui est vraiment dans les chaussettes parce que je me rends compte que j'arrive plus à faire les choses comme avant. Bon, là, il va se dire, allez, on va peut-être vous diriger vers un psychiatre. Donc là, vers un médecin qui va pouvoir vous prescrire des traitements qui vont aider. Si par contre, il voit que vous n'êtes pas trop déprimé, que ça fait pas trop longtemps que vous avez des TOC, là, peut-être plus vers un psychologue qui va faire une thérapie. Après, il y a une question de choix. Il y a aussi des personnes qui ne veulent pas de médicaments et d'autres qui veulent pas de faire de thérapie. Donc, voilà, vous posez la question. En tout cas, on a la Haute Autorité de Santé recommande ces deux médicaments, enfin ces deux traitements en premier. Les médicaments, d'une part, et la psychothérapie. Et il y a une chose qu'il faut dire qui est importante sur les médicaments, c'est que les médicaments qu'on donne en premier, c'est des antidépresseurs à des doses plus importantes que dans la dépression. Et souvent, les patients vous disent « Non, moi, j'ai pas besoin d'antidépresseurs, je suis pas déprimée. » C'est aussi des médicaments anti-TOC, sauf qu'ils ont le nom d'antidépresseurs. Donc D'accord. ça, faut faire attention à cette petite subtilité qui parfois freine à la prise du traitement.
Mais est-ce qu'on peut s'en sortir quand on a un TOC? Là, oui. Mettons que moi, justement, j'ai un comportement où je nettoie toujours parce que j'ai peur d'être contaminée. Est-ce que, même si c'est sévère, j'ai quand même une lueur d'espoir, il faut quand même le dire, de un jour ne plus avoir en permanence ça au fond de ma pensée?
Oui. Alors, globalement, encore une fois, ça dépend de la sévérité, ça dépend depuis quand vous avez des TOC, ça dépend aussi du parcours que vous avez fait. Peut-être vous avez essayé plein de traitements. Mais on a, je dirais, plus d'une chance sur deux de se débarrasser de son TOC.
Ah ouais, c'est énorme, une chance sur deux.
Ah oui.
Donc ça, en fait, il faut en parler.
Ah bah oui. On peut s'en débarrasser. Encore une fois, ça dépend des cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des TOC, ce qu'on appelle sévères et aussi résistants. C'est-à-dire qu'on va essayer plein de médicaments différents, parce qu'il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plein, et ça va pas marcher. On va essayer plusieurs thérapies, ça va pas marcher. Bon, ça arrive, hein, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, il doit y avoir à peu près 10%, mais bon, voilà.
Ouais. Et donc, en fait, si je comprends bien, ensuite, on va parler plutôt de votre livre et changer de sujet, mais pour terminer sur les TOC, si je comprends bien, en tout cas, ce qui me frappe dans votre discours, c'est que le TOC, c'est quelque chose de plus fréquent qu'on ne croit, que beaucoup de gens, en fait, ont des TOC, et que c'est très stigmatisé. Et finalement, si je lis un peu entre les lignes, mais vous allez me dire si c'est bien correct, en fait, souvent, les gens ont peur, un, de l'assumer, et deux, de le dire, et donc, en fait, ne seront jamais soignés.
Exactement.
C'est ça, c'est une réalité, ça? Ouais. On ne se fait pas soigner quand on a un TOC?
Alors, il y en a qui se font pas soigner par honte, par méconnaissance, de moins en moins. Hein. Ça a été assez diminué, cette méconnaissance, avec les émissions grand public. À l'époque, c'était de la rue, ce genre de choses qui passaient sur France 2, où on montrait vraiment des cas assez importants. Mais moi, j'ai plusieurs patients qui ont fait leur autodiagnostic grâce à ces émissions. Ouais. Donc, d'où l'importance d'en parler, même si c'est très vulgarisé, c'est pas grave. On a entendu à un moment donné, et puis on se dit « Ah, mais moi aussi, j'ai ça !» Voilà.
Ouais, puis pas être stigmatisé au sens, je veux dire, je l'ai, c'est pas grave, ça peut se soigner. Enfin, c'est grave au sens, oui, c'est
embêtant,
un trouble, c'est embêtant, mais
ça soigne.
Ouais.
Ça soigne, et ça soigne bien. Ça soigne bien.
C'est un peu comme d'avoir une jambe cassée et de dire, bon, c'est embêtant, mais ça soigne, quoi.
C'est ça, ça soigne. Alors, la seule différence avec la jambe, enfin, il y en a avec la jambe cassée.
Mauvais exemple.
Mais le processus, effectivement, il y a un processus qui est quand même assez proche. Par contre, il y a pas tant de spécialistes que ça qui sont formés à la prise en charge des TOC, que ce soit en psychothérapie, donc par un psychologue, ou avec un psychiatre. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté d'accès aux soins. Et là, les patients, notamment certains patients de l'AFTOC, commencent à vraiment à exprimer ce déficit comme ça d'accès aux soins.
Donc si, messieurs, dames, vous avez potentiellement un risque, en tout cas un doute, c'est l'AFTOC.
Oui.
C'est ça. Super. Bah, merci pour cette masterclass, Anne-Hélène. C'était hyper intéressant. Et franchement, moi qui n'y connaissais pas grand-chose, j'ai appris énormément. Mais je voulais revenir sur un autre sujet qui vous tient à cœur aussi, je crois, qui est votre dernier livre, Devenez votre propre psy. Donc, par hasard, on en discutait juste avant de commencer. Il se trouve que j'ai rencontré votre co-auteur Vincent hier. Et en fait, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais c'est génial, en fait, la vie est quand même assez drôle parce que j'ai eu envie de lui poser plein de questions. Mais je me suis retenue pour vous. Et peut-être la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et de changer un peu, parce que là, vous ne parlez pas particulièrement de TOC dans ce livre.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous ouvrir à un plus grand public sur des thématiques plus de bien-être mental?
En fait, on se connaît depuis longtemps hein, avec Vincent, depuis une quinzaine d'années. On s'est rencontrés sur la thématique des TOC, hein, puisque lui est psychothérapeute spécialisé en TCC sur les TOC notamment et les troubles anxieux. Et moi, je faisais ma thèse de neurosciences, donc sur les TOC aussi, avec mon côté plus effectivement neurobiologie. Et on a commencé à discuter ensemble et essayer de voir comment les connaissances de l'un et de l'autre pouvaient enrichir les pratiques de l'un et les pratiques de l'autre. Et on a écrit notamment sur les TOC, hein, grâce à ça. Et là, il y a quelques années, je sais pas, il y a peut-être 2 ans, je dirais. Je suis venue voir Vincent et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien écrire un livre qui soit quand même plus grand public, où on parle des habitudes, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes, et de la façon dont on pourrait s'en débarrasser et rendre accessible en fait au grand public nos techniques qu'on a nous de thérapie cognitive comportementale, de thérapie de gestion des émotions, de voilà toutes les techniques qu'on a en tant que thérapeute. Et bon, il m'a dit ouais, bon, d'accord, c'est passionnant, mais on peut faire mieux. Et donc là, on a commencé à construire ensemble ce livre. Et finalement, d'un livre sur les habitudes, c'est devenu un livre sur, j'allais dire, les tracas du quotidien, les soucis qu'on peut avoir sur le plan psychologique chez Monsieur Tout le Monde, qui sont peut-être pas suffisants pour qu'on aille consulter, mais que si on les avait pas, on serait mieux.
Et qui nous pourrissent un peu la vie,
ouais,
quoi.
Voilà.
Vous auriez un exemple?
On peut dire, un exemple là. Par exemple, si j'étais hyper timide et que, enfin hyper timide,
et
non,
là,
mais
bam,
un peu
vous
timide,
sur mon podcast,
et de me dire, oh là là, je vais être interviewée sur le podcast, et puis il va y avoir des gens qui vont me regarder. Bon, j'y vais quand même, mais je me sens pas hyper à l'aise. Si vraiment je me sentais très mal à l'aise, et que ce serait handicapant à tel point que j'aurais dit, ah ben non, désolé, je peux pas.
Ouais.
Le podcast, je peux pas.
Ouf. Voilà. On est pas passé loin, mais.
Là, on serait plutôt vers un vrai trouble, une phobie sociale.
Ouais.
Enfin, voilà. Un vrai trouble anxieux. Par contre, si c'est une petite gêne, voilà, ça va me gêner, mais ça va pas m'empêcher. Et ça, cette petite gêne, on peut l'enlever.
Alors, ouais. Comment, quels sont pour vous, on peut parler du livre, mais les points les plus marquants justement de ce livre,
ouais,
et quelles ont été les trouvailles d'une certaine manière dont vous êtes les plus fiers dans ce livre?
Alors, moi je dirais que ce qui vraiment nous a tenu à cœur dans ce livre, c'est de montrer comment, alors c'est très vaste, mais comment on peut comprendre la façon dont fonctionne le cerveau, et comment comprendre la façon dont fonctionne ce cerveau peut nous aider dans notre quotidien et nous motiver à changer de comportement. Et ça, c'est quelque chose que je dis à mes patients qui ont des TOC aussi et en thérapie de façon plus générale. Quand vous faites des exercices, quand vous faites des efforts en thérapie, ça va changer la façon dont fonctionne votre cerveau. Et le fait de le répéter comme ça, ça va moduler des circuits dans votre cerveau qui vont faire que la prochaine fois, ce sera plus facile.
Ça, c'est hyper intéressant comme idée. C'est un peu, moi, je fais beaucoup de parallèles avec le sport.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est, en fait, on fait un pas de danse. La première fois, on se plante, la deuxième, la troisième. Et au bout de la 50e fois, on n'y pense même plus, quoi.
C'est ça.
Et en fait, notre corps, c'est un peu adapté, quoi.
C'est exactement ça.
Et c'est pareil dans le cerveau, ça qui est fou.
C'est pareil. Et ça, je pense qu'il faut le dire parce que je trouve ça extrêmement encourageant.
On peut changer.
Bah oui, on peut changer. Mais pas aussi rapidement qu'on croit. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a envie que les choses aillent vite. Et on essaye un truc, on fait « Ah bah non, ça marche pas, hop, suivant. » Bah non, en fait. Il faut pas l'essayer une fois. Il faut le faire plein de fois. Plein de fois. Avec une technique, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas faire un truc non plus... si je suis un peu timide, comme si on reprend mon exemple, je vais pas dire « Allez, je vais aller chanter devant tout
l'Olympia.
Le monde à la fête de la musique, place d'enfer Rochereau. » Non. En plus, ils me voudront pas. Mais bon... ça c'est trop. Par contre, typiquement, voilà, je peux me dire, je m'entraîne, je fais un podcast
avec Pauline, c'est sympa.
Voilà, on est que deux, ça va aller. Donc voilà, faire des petites choses et puis les faire de façon répétée. C'est-à-dire, je fais un podcast, mais peut-être que, le lendemain ou le surlendemain, je vais prendre la parole en réunion devant tout le monde, alors que ça me stresse un peu, mais je le fais. Et de plus en plus, comme ça, je m'entraîne tous les jours à prendre la parole en réunion.
Je partage une petite anecdote parce que je coach ou en tout cas amicalement certaines personnes dans mon entreprise qui aussi ont souvent ce problème de prise de parole en public. Et au début, qui me disaient « Mais est-ce que tu veux me coacher pour que je puisse parler publiquement et tout ?» Je lui dis « Mais t'as pas un problème de prise de parole en public ?» En fait, à ce stade, il faut déjà juste que tu sois plus à l'aise à l'idée de parler avec des personnes que tu connais pas très bien.
Oui.
Déjà, ça, c'est un premier petit pas qui est énorme.
Oui.
Et du coup, on s'est fixé un petit challenge que je vous partage qui est rigolo, qui est que tous les midis, cette personne, qui se reconnaîtra peut-être, doit parler, enfin doit, elle fait ce qu'elle veut, mais doit parler avec une personne qu'elle connaît pas bien à table. Et c'est fou parce qu'en fait, rien que ça, elle m'a dit, mais c'est incroyable, je me sens beaucoup plus à l'aise, ça me donne envie de me tourner vers les autres, j'ai moins peur. Et donc, ce petit exercice tout petit, tous les jours répété, fait que c'est une personne qui se sent déjà plus à l'aise à l'idée de s'exprimer en réunion, par exemple, publiquement.
C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on a voulu transmettre aussi dans le livre, c'est toutes ces petites choses qu'on peut faire sur notre quotidien. Et je pense que cette personne, c'était un plus pour elle d'être plus à l'aise à l'oral, mais que c'était pas non plus handicapant.
Ouais, ouais,
ça l'a pas empêché de travailler, ça l'a pas empêché de, je sais pas, peut-être d'avoir un copain, une copine, j'en sais rien, ben voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui améliorent notre quotidien. Et cette notion à la fois de savoir sélectionner des choses faisables et de les répéter.
C'est ça, les répéter.
Voilà.
Et les répéter beaucoup, d'après ce que je comprends.
Oui.
Vous donnez dans le livre quelques exemples, quelques exercices que vous pourriez partager avec nous ?
Oui, alors ça, l'exemple que je vous ai donné, par exemple sur la timidité, ça peut être ça. Oui, on a plein d'exemples. Ça peut être sur, par exemple, l'affirmation de soi aussi, savoir dire les choses. Parce que c'est vrai que si on a tendance à pas trop s'affirmer de façon répétée, au bout d'un moment, on a l'estime de soi qui diminue un peu. Et donc, savoir s'affirmer de façon claire, on donne des exemples dans le livre.
Donc, par exemple, pour avoir plus confiance en soi, dire un peu plus ce qu'on pense.
Exactement. Dire ce qu'on pense de façon, j'allais dire, claire, sans négliger aussi ce que nous a dit l'autre. Mais voilà, de façon, de façon assez claire. Ça, on donne des petits exemples. Il y a aussi un exemple qu'on donne, c'est l'exemple de Vincent qu'il aime beaucoup. La lettre, ils en ont parlé sur Europe 1. Moi, je l'aime beaucoup aussi cet exemple parce que c'est très drôle de faire ça avec les patients. Après, on lit les lettres ensemble et là, on dit ah oui, tout ça. Donc, en fait, l'exemple des lettres, c'est une technique pour se décharger émotionnellement. C'est-à-dire que c'est vrai que si moi je vous dis il m'est arrivé ça, un tel il m'a dit ça et ça m'a blessé, c'est plutôt quelque chose de rationnel. Alors que si vraiment je m'adresse à cette personne avec des mots, il y a même des gros mots, on dit des gros mots dans le livre, on peut. C'était un exemple. là on se décharge. Et qu'est-ce que moi je lui aurais dit à cette personne? Et après, moi, ce que je conseille aux patients, souvent, je leur dis, vous prenez la lettre, vous la froissez, ou vous la déchirez, vous la jetez à la poubelle, et ça, on n'en parle plus, quoi. C'est tout est sorti, tout est évacué, et ça fait un bien fou.
C'est dingue, hein.
C'est des petites choses comme ça, des petites, qui sont pas compliquées, hein.
Je voulais vous parler de manque de confiance en soi parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent, évidemment. Et puis, à différents moments de la vie, enfin, voilà. Et vous avez parlé, justement, de quelques exemples dans le livre. Est-ce que vous pourriez nous prendre un peu par la main et nous dire, moi, je me sens pas très bien. En ce moment, je suis dans une phase de ma vie où je sens que j'ai un peu perdu en estime de moi. Quelles seraient quelques clés, justement, pour aller un peu mieux et puis pour moi avoir en permanence, vous savez, ce discours délétère en tête?
Alors, je dirais qu'il y a, déjà, il faut comprendre d'où ça vient. Parce que, enfin, d'où ça vient. On va pas se lancer dans 10 ans de psychanalyse, hein. Mais parfois, quand on a un manque d'estime de soi, ça peut être aussi le témoin d'une dépression, par exemple. Le sommet de l'iceberg vers une dépression.
Oui, donc il faut quand même se poser des questions.
Donc, se poser des questions, voir s'il y a que ça ou s'il y a aussi d'autres choses qui me gênent. S'il y a que ça qui me gêne, dans ces cas-là, on peut...
Je suis en train de faire une petite story. C'est pour ça que Anne-Hélène est un peu troublée.
J'ai bugué. Donc c'est vrai que vous m'avez perturbée.
Oh, on parlait de confiance en soi.
Donc s'il y a que ça, moi il y a un exercice que j'aime bien, c'est d'essayer de trouver des choses positives dans notre quotidien. Et encore une fois, cet exercice-là de le répéter régulièrement. Donc, par exemple, 3 petites choses positives que j'ai pu faire hier.
Se les dire.
Ouais, et on fait le bilan. Alors, ça peut être basique, hein, genre, Bah, hier, par exemple, j'étais en vélo et j'ai laissé passer une dame au passage piéton. Voilà, je me suis arrêtée exprès pour la laisser passer. C'est nul, hein, vous allez me dire.
Non.
Mais voilà, c'est des petites choses positives comme ça. Et de dire, ah bah c'est chouette, je suis contente d'avoir fait ça, voilà. Ou hier, rendu service à un de mes collègues qui m'a demandé quelque chose et ça m'a fait plaisir de lui rendre service. Ah, c'était une chose bien aussi.
Hyper intéressant. Eh bien, merci mille fois, Anne-Hélène, pour ce petit récap. Je vous incite donc tous à découvrir le livre « Devenez votre propre psy », comme ça vous aurez tous les détails, toutes
exact.
Les astuces, tous les exemples. Et puis pour terminer, j'ai toujours des petites questions que je pose à la fin de ce podcast, que j'appelle mon crible. La première question, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec ? L'échec qui a un peu changé votre vie, si je puis dire. Et puis surtout, qu'est-ce qui vous a appris sur vous, sur le monde qui nous entoure ?
Alors, c'est pas un grand échec en soi, mais la première chose qui me vient à l'idée quand vous parlez d'échec, c'est le premier échec que j'ai eu, c'est que j'ai raté mon permis de conduire.
Ah.
Alors, c'est nul, hein ?
Mais non, écoutez, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Non, c'est ça. Et en fait, j'ai eu une scolarité assez belle. Enfin voilà, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu aucun problème. En plus, je suis née au mois de décembre, donc j'avais toujours un peu d'avance sur ma classe. J'ai eu mon bac à 17 ans. Enfin voilà. Et mon permis de conduire, j'ai dû le repasser deux fois. Et là, c'était la première fois. En fait, on disait bah non, ça passe pas quoi. Et ça m'a fait me remettre en question quand même. Et déjà
Qu'est-ce
me dire
que
ah ben là sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je me dis, mais finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça d'échouer. Et moi, c'est ce que je dis aussi aux patients. Même quand on fait des efforts dans le quotidien, on en fait plein. Si de temps en temps on échoue, c'est normal. Si on fait toujours les trucs bien, tout parfait, etc., ça met une pression. Et donc, finalement, c'est pas grave.
Donc, vous mettez moins la pression suite à
bah
cet
ouais.
échec. Très bien. Mais écoutez, on retiendra. Mais je pense qu'il y a peu de personnes qui nous écoutent qui ont eu leur permis du premier coup, par ailleurs. C'est quand même pas
bon,
si facile.
Bon, ça va, ça me déculpabilise.
S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez différemment ?
Oh là là.
Elles sont dures, mes questions.
Bah oui, elles sont dures. Alors, moi, le grand problème, c'est que j'aime beaucoup de choses. Mais beaucoup. Je suis très intéressée par plein de domaines différents, voilà. Et donc, j'ai tendance à surbooker beaucoup mon agenda. Je fais attention, hein, mais j'essaie de pas tomber en burn-out comme les patients. Donc, je fais vraiment attention à ça. Je pense que peut-être que j'essaierai de prendre moins de choses si je devais changer. Mais c'est difficile de laisser tomber.
La fear of missing out, du
voilà.
coup, ça vous connaît. Je comprends. Bah, on est tous logés à la même enseigne, hein. Mais bon, je dis souvent. Enfin, moi aussi, j'ai des petits soucis d'agenda assez régulièrement.
Ouais, je pense qu'il faut faire attention. Moi, je dirais davantage me faire plaisir, davantage penser à moi et penser à ce qui me rapproche des choses qui sont importantes. La famille, les amis, se chouchouter aussi, donc prendre plus de temps pour soi.
Est-ce que il y a une maxime, il y a une citation, des mots de sagesse qui vous plaisent particulièrement, que vous répétez de temps en temps ?
Alors, j'avais quand je faisais les études de médecine, c'était quand même assez dur, et j'avais des petits mots comme ça pour m'encourager.
Ouais.
Et alors, je sais pas du tout de qui c'est, donc je m'excuse par avance, mais c'est une citation de quelqu'un,
que
j'avais
bien.
Beaucoup aimé, qui disait c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte.
C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ça veut dire qu'il faut...
Il faut essayer plein de fois.
Ah,
et au bout d'un moment, ça finira par marcher.
Il faut être patient, quoi.
Ouais. Et ça me donnait vachement de courage.
Elle est pas mal, hein.
Ah.
Elle est pas mal. Encore une question pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance, une idée, une conviction qui est controversée ? C'est-à-dire qui n'est pas globalement partagé par la majorité des gens. C'est pas forcément des trucs non politiquement corrects, hein, mais c'est juste que c'est pas forcément. Vous constatez qu'autour de vous, les gens sont plutôt. Enfin, vous n'êtes pas d'accord avec, on va dire, l'air du temps, si vous voulez.
Pas tant que ça, en fait. Là, comme ça, je vois pas. Peut-être. Tout est relatif parce que j'allais dire peut-être le fait que je sois une femme indépendante, très bosseuse, un peu directive. Oui, on n'a pas l'image de la femme au foyer parfaite, mais c'est tellement années 70. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être bon, ça se voit peut-être plus maintenant. Mais ce serait peut-être ce côté-là plus. Voilà. Très carriériste.
Oui, bah justement, on peut être une femme qui bosse beaucoup sans être carriériste.
Ouais, aussi.
Très bien, mais tout en étant passionnée. Et ma dernière question, c'est une question littéraire, parce que j'adore moi-même lire. J'ai même un book club sur ce podcast, pour tout vous dire. Est-ce qu'il y a un livre ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie que vous pourriez partager avec nous, nous décrire, nous donner envie de lire peut-être?
Alors, déjà, moi, je lis pas beaucoup de livres. Enfin, les romans, je les ai lus avant, j'allais dire quand j'avais le temps.
Ça peut être des livres de non-fiction, comme on dit.
Ouais, c'est plutôt des livres pro en fait que je lis. Enfin, en ce moment, je lis le livre Grandir, vivre, devenir de Jean-Christophe Sesnec. Il y a une co-autrice, mais je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est un livre que j'aime bien, qui emprunte beaucoup de choses à la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et de l'engagement. Donc c'est qu'en fait, c'est de constater ce qui est en train de se passer, constater les émotions, constater les choses qu'on ressent, et finalement de les accepter, de les laisser couler. Et ça marche assez bien. Et donc c'est un échange comme ça entre donc Jean-Christophe Sesnec qui est psychiatre. Et Jeanne, dont je m'excuse mille fois, j'ai oublié le nom de famille, voilà, qui est psychologue, et ils communiquent entre eux au moment du premier confinement sur justement ce qui est en train de se passer, sur la façon dont ils voient la vie, voilà. Donc ça, j'ai bien aimé ce livre, je suis encore en train de le lire, je suis en plein dedans.
D'accord, parce qu'en fait, il vous a fait mieux connaître vous parlez de ACT, c'est ça?
Oui, alors c'est vrai qu'il permet de donner un aperçu de cette thérapie-là, et puis c'est assez intégratif. Ils utilisent plein de petites astuces qui viennent d'autres courants thérapeutiques, et j'ai trouvé que c'était assez bien fait, assez agréable.
Ok, très bien. Voilà. Un autre livre ou on s'arrête là?
Comme ça, là c'est celui que je suis en train de lire, donc je peux vous le dire. Les autres. Ben pas tellement comme ça. Après il y en aura, je me dis oh tu aurais dû dire ça, celui-là je l'adorais.
Mais là on vous en voudra pas. Bah écoutez Anne-Hélène, merci mille fois pour votre temps, c'était vraiment passionnant, et j'espère que les personnes qui nous écoutent, si jamais évidemment vous avez des petits tracas du quotidien, eh bien n'hésitez pas à consulter le livre Devenez votre propre psy. Si jamais pour le coup vous avez des troubles plus sévères, exactement, ou dans votre entourage, donc c'était l'AFTOC, c'est ça?
L'AFTOC, et puis sinon on parlait à son médecin traitant.
Et on parlait à son médecin traitant.
Tout simplement.
Anne-Hélène, pour terminer, si on veut vous retrouver sur le monde doux et joyeux des réseaux sociaux, où est-ce qu'on fait ça?
Alors, sur LinkedIn.
LinkedIn est notre amie, très bien.
Après, le reste,
Anne-Hélène,
c'est...
Anne-Hélène Claire, voilà. LinkedIn, on vous trouve
c'est
facilement.
C'est ça. Et là, ça marche.
Et ça marche, on fait ça. Merci mille fois pour votre temps.
Merci à vous.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.